Si je devais résumer ma transformation en une seule scène, ce serait celle-ci. Moi, 19 ans, assis dans ma Smart, sur le parking de Montereau-Foltion, tenant 5000 euros en espèces que je viens d'escroquer à un certain Monsieur Bartel, qui voulait juste une piscine pour sa famille. Dans ma poche, un téléphone jetable Lebara acheté le matin même. Dans ma tête, un plan millimétré répété 100 fois. Sur mon visage, pas la moindre trace de culpabilité, juste la satisfaction du travail bien fait. Comment en suis-je arrivé là? Comment un gamin de banlieue modeste devient-il capable d'arnaquer des milliers d'euros en se faisant passer tour à tour pour un constructeur de piscine, un avocat dans un cabinet parisien ou un conseiller financier spécialisé dans le trading crypto? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. On ne naît pas escroc, on le devient. Étape par étape, mensonge par mensonge, rôle après rôle, jusqu'à ce que l'imposture devienne une seconde nature et que mentir avec assurance soit aussi naturel que respirer. Tout commence en 1996, à Évry, dans l'Essonne. Famille marocaine de Casablanca, modeste, mais soudée, où ma mère, agent de voyage chez Look Voyage, fait des miracles avec un budget serré, et où mon père, handballeur professionnel, court après un salaire qui n'arrive jamais vraiment. J'ai grandi à Ris-Orangis. Toute ma famille y vit encore aujourd'hui. Ma mère a 5 frères et sœurs, aussi issus de Ris-Orangis. J'ai 8 cousins et cousines dans la même ville. Mon enfance était rythmée par les réunions de famille, chez ma grand-mère, ou alors chez ma tante. Tout le temps du monde, ça rigolait tout le temps. L'archétype de la famille qui se démerde comme elle peut, qui compense l'absence d'argent par la présence et la chaleur humaine. La relation entre mes parents se détériore, créant une instabilité continue que ma mère essaie de masquer par un amour débordant pour ses 3 fils. Puis, quand j'ai 4 ans, coup de théâtre qui va marquer ma vie. Du jour au lendemain, je suis sans nouvelles de mon père. Ma mère, dans sa volonté de nous protéger, ne nous explique rien. Elle fait comme si de rien n'était, comme si papa était juste parti en voyage d'affaires un peu long. Moi, gamin de 4 ans, j'enregistre un truc fondamental. Les adultes peuvent mentir. Les adultes peuvent faire semblant que tout va bien, alors que le monde s'écroule. Les adultes maîtrisent l'art de l'illusion. Premier ingrédient de l'escroquerie. Comprendre très tôt que la réalité est manipulable. Pendant des années, je vais en vouloir à ma mère, la rendant responsable du départ de mon père dans ma logique d'enfant. Je deviens turbulent, insupportable à l'école. Au CP, je déclenche volontairement des problèmes pour que l'école appelle mon père. Peut-être viendra-t-il me voir. Peut-être comprendra-t-il qu'il lui manque quelque chose. Je n'avais aucun autre moyen de le contacter. Les convocations s'accumulent. Ma mère se déplace à chaque fois, honteuse et fatiguée. Mais lui reste invisible. J'ai compris en 4e ou en 3e que les liens avec mon père étaient rompus et qu'il nous laissait tomber, en comparant mon histoire à celle des copains-copines de l'époque. C'est ici que se trouve le deuxième ingrédient de mon parcours. Avec cet épisode, j'ai appris que pour obtenir une réaction, il faut savoir jouer avec le système. À 7 ans, moment décisif de mon parcours, on me met devant le premier ordinateur familial. Internet débarque à la maison comme une révélation absolue. On découvre Internet, on se prend une claque monumentale. On se dit « Mais attendez, c'est un truc de fou !» On se met à surfer sur le net, télécharger des jeux, et c'est là que moi, perso, je tombe dedans sans forcément m'en rendre compte. Il existe un monde parallèle, accessible depuis sa chambre, où on peut télécharger des jeux gratuitement, regarder des trucs interdits, discuter avec des inconnus du monde entier. Cette période marque ma véritable entrée dans l'univers de la transgression organisée. Je passe des heures à apprendre comment contourner les protections. Les prémices du hacking dans ma vie viennent de là, grâce à des tutoriels qui m'ont permis d'apprendre à flasher des consoles de jeux PSP ou à jailbreaker les premiers iPhones. Il y avait ce qu'on appelle des flashs, des ROM qu'on insérait dans la carte mémoire de la PSP et qui permettaient d'avoir accès à tout le catalogue de la console sans payer les jeux. Pour les iPhones, c'était tout aussi simple. Il n'y avait qu'à télécharger l'application Cydia via le navigateur de l'iPhone et à savoir le passer en mode DFU, mode récupération. Troisième ingrédient, développer un rapport instinctif à la transgression technique. Comprendre qu'il y a toujours une faille à exploiter quelque part. C'est au collège que j'ai trouvé le quatrième ingrédient de ma formation d'escroc. L'humour et la répartie peuvent transformer n'importe quelle faiblesse en force. Dès la sixième, ça s'est passé très, très, très mal. Je suis très complexé par mon poids. Je suis gros. 1m65 pour 87 kilos à 13 ou 14 ans. J'ai beaucoup de connaissances, mais peu d'amis. J'ai dû me créer une carapace dans laquelle j'étais le clown, le marrant. J'avais beaucoup de réparties, et je ne supportais pas que quiconque me fasse une réflexion, quelle qu'elle soit. On m'avait déjà proposé en CP de sauter une classe. Ma mère a refusé, et je l'avais mal vécu. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir plus de capacités. Au collège, j'avais la sensation de m'ennuyer en cours. Je me faisais exclure. J'étais le clown de la classe. Toujours une vanne dans la manche, à savoir retourner n'importe quelle situation à mon avantage sans me laisser démonter. Cette technique marche tellement bien que je deviens rapidement le centre d'attention. Tout le monde veut traîner avec le mec drôle. Je me suis fait virer de mon premier collège en quatrième, après avoir été surpris en flagrant délit de tag. J'avais inscrit en grandes lettres sur le mur du bâtiment A « Madame Duval m'a tué ». Ironie du sort, c'est la principale elle-même, Madame Duval, qui m'a pris le marqueur à la main face au mur. Ainsi, j'ai changé de collège et ai été affecté dans un collège d'une ville voisine. Malheureusement, à l'époque, le climat en banlieue n'était pas toujours évident entre villes voisines. C'est ainsi que je me suis retrouvé au collège Paul-Éluard d'Évry. Au bout de 2 mois, lorsque certains élèves ont fini par comprendre que je venais de Ris-Orangis, j'ai eu le droit à un guet-apens en bonne et due forme. À la sortie du collège, j'étais attendu par plus de 20 jeunes d'Évry. Je me suis donc fait lyncher copieusement ce jour-là. J'ai donc de nouveau changé de collège, et c'est là que mon père est réapparu. Je suis parti vivre chez lui. Mais en réalité, j'ai d'abord habité chez ma grand-mère, à Verrières-le-Buisson, et j'ai raté un trimestre à cause de cela. Ensuite, j'ai quitté ma ZEP pour un collège de fils à papa, comme je disais à l'époque, à Saint-Maur. Il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, des asiatiques. Il y avait de tout. Et c'est là que je me fais des amis d'autres cultures, d'autres horizons que de la banlieue et la cité. Choc culturel total, qui va transformer ma vision du monde. Et moi, le petit Marouane de Ris-Orangis, je dois m'adapter rapidement ou couler. Cinquième ingrédient crucial, apprendre à décrypter différents codes sociaux et à m'y adapter parfaitement. Avec les bourgeois de Saint-Maur, je joue naturellement le gamin poli et éduqué. De retour à Ris pendant les week-ends, je redevenais automatiquement le jeune de banlieue typique. L'année scolaire finie, mon père a décidé que je devais retourner chez ma mère. Retour à Ris, puis inscription au collège Jean Lursa, qui fut au passage mon dernier collège. Cette fois, je canalise ma popularité vers quelque chose de constructif. Dès la rentrée, j'ai été élu délégué de classe, délégué du collège. Passé d'être jugé en conseil de discipline à « j'assiste au conseil d'administration et au conseil de discipline et je représente les élèves », c'est un truc qui m'a fait aimer l'école. Tous les potins de la cour de récré passaient par moi. J'avais que des amis, c'était cool. Jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Septième ingrédient décisif, découvrir le pouvoir immense de l'information et du réseau social. Comprendre que celui qui centralise l'information détient un atout considérable sur son environnement. Je deviens le centre névralgique de l'information de l'établissement. Le lycée, c'est l'échec total et spectaculaire. J'étais fumeur, j'étais très absent, j'ai fini par ne plus y aller du tout.